Oui, alors je trouve que c'est beau que Marie a fait sienne la parole de Dieu. Elle a vraiment accueilli cette parole. Elle l'a pas écoutée de manière discrète ou voilà, elle s'est imprégnée de la parole de Dieu. Et notre foi, c'est toujours une réponse à la parole. C'est Dieu qui a l'initiative et nous on répond. Cette parole de Dieu nous permet de connaître et aussi grâce à l'Esprit Saint. Si, comme le dit Saint Paul, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Hein, et c'est ce que dit Élisabeth. Voilà. Mais du coup, la foi, ça suppose vraiment une écoute de la parole, une réceptivité. D'ailleurs, pour entendre l'Esprit Saint, il faut être attentif à ce qui, entre guillemets, bondit en vous, hein, pour faire référence à Jean-Baptiste qui bondit en Élisabeth. C'est, il y a des choses qui résonnent en vous, et c'est dans la mesure où vous êtes dans cette attitude d'écoute, et c'est comme ça que l'Esprit Saint vous parle aussi. Voilà, alors ça c'est une dimension de la foi qui est l'écoute. Hein, c'est Saint Paul qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Ça, c'est Saint Paul qui dit ça aux Romains. Voilà, alors, la foi, c'est cette capacité d'écoute. La foi va de pair avec une forme d'intériorité, de contemplation. Dans d'autres passages, on voit bien que Marie, elle n'écoute pas la parole de manière... la parole ou les événements, elle les écoute pas de manière superficielle, un petit peu distraite. Hein, dans le chapitre 2, vous l'avez au moins à deux reprises, hein. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Donc elle essaie de voir, de faire des liens entre les choses, de voir, de comprendre, elle essaie de comprendre. Hein. On voit que... Et ça suppose du temps et ça suppose de l'intériorité. Pour prendre une image, hein, c'est les vaches, elles prennent le temps de ruminer. Hein, nous, quelquefois, pour que ce soit les événements, que ce soit, on prend pas assez le temps de la relecture. Donc, on avale tout rond, là, un peu, de manière un peu gloutonne, mais on ne prend pas le temps de savourer. Et je pense que cette écoute, la foi, va de pair avec ce fait de. Cette intériorité, cette contemplation, cette méditation pour comprendre ce qui est en train de se passer. La foi aussi, c'est essayer de discerner à travers ce qui nous arrive, à travers les paroles, de discerner l'amour de Dieu pour nous. On voit c'est toute cette capacité de réceptivité hein, dans la foi où on essaie d'interpréter. Alors, je peux vous citer Paul VI, entre autres. Si Jésus rayonne une telle paix, une telle assurance, une telle allégresse, une telle disponibilité, c'est à cause de l'amour ineffable dont il se sait aimé de son Père. Hein, donc, lors de son baptême sur les bords du Jourdain, cet amour présent dès le premier instant de son incarnation est manifesté. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et nous pouvons goûter la joie proprement spirituelle qui est un fruit de l'Esprit Saint. Et justement, c'est dans la manière d'accueillir toutes ces manifestations de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs dimensions dans la foi, vous savez, hein, donc c'est cette écoute qui nous fait connaître des choses de Dieu, mais la foi, il y a aussi une dimension de confiance, de se remettre entre les mains de Dieu et de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'Évangile nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et on voit bien les miracles se font à la proportion de cette foi, mais cette foi qui est aussi dans une forme de confiance. Vous vous rappelez de Saint Pierre là, qui crie avec foi vers Jésus, et du coup, Jésus peut intervenir. Et dans beaucoup de miracles, c'est comme ça. Cette foi, toujours, c'est ce qui permet de voir au-delà du mal. Alors, dans le Magnificat, ça apparaît beaucoup dans le Magnificat, où tout n'est pas simple, mais Marie voit déjà, quelque part, elle entrevoit déjà le renversement qui s'opérera par la mort et la résurrection de Jésus. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Voilà. Donc déjà, sa foi lui permet de voir presque en avance cette victoire de Jésus sur le mal. Ça, c'était le deuxième point après l'humilité. C'est cette foi qui nous donne de voir et de faire confiance en ce que Dieu nous propose. Le troisième point, c'est la louange. La louange, c'est beau de voir que la louange commence par l'action de grâce, souvent. Ce n'est pas exactement la même chose, la louange et l'action de grâce. L'action de grâce, on remercie pour quelque chose. La louange est, d'une certaine manière, beaucoup plus désintéressée. On s'émerveille devant Dieu tel qu'il est. Mais quelqu'un disait que l'action de grâce, c'est comme le premier étage de la fusée de la louange. Il faut commencer par rendre grâce. Et je pense que c'est important, parce que sinon notre louange, elle peut être un peu déconnectée de la réalité. Voilà. Et c'est pour ça que ça commence par l'action de grâce. Et on voit bien dans le Magnificat, Marie commence par rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour elle, personnellement. Et nous aussi, notre louange, c'est bon de reprendre des motifs particuliers d'action de grâce. Et à partir de là, entrer dans la louange. On pourrait reprendre aussi, vous connaissez le psaume 135, « Car éternel est son amour ». Mais alors, au point de départ, on regarde d'abord des choses particulières qui nous arrivent. Donc, la première partie du Magnificat, c'est plus, elle parle en soliste, Marie, et puis après, c'est plus un chœur. Elle élargit sa louange, on pourrait dire. Alors, c'est sans doute pas par hasard que l'Église nous propose tous les jours, vous savez que le Magnificat, on le reprend tous les jours pour l'office du soir, pour les vêpres. Mais peut-être, justement, ça peut être une invitation aussi pour nous de faire notre propre Magnificat à la fin de la journée. Alors, c'est très bien de faire votre examen de conscience en fin de journée, mais de faire votre examen de gratitude pour que ça ne soit pas simplement le Magnificat de Marie, mais de joindre votre propre Magnificat à celui de Marie au soir de chaque jour. Alors, Benoît XVI nous dit que dans l'original grec de l'évangile de Luc, on trouve sept verbes à l'aoriste, qui indique tout autant d'actions que le Seigneur accomplit de manière permanente dans l'histoire. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, il relève Israël. Alors, je ne sais pas si vous êtes calé en grec, mais ça vous donne sans doute beaucoup d'émotions, ces verbes à l'aoriste. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement Marie, à partir de l'action de grâce et de ce qu'on peut vivre aussi, et Marie nous l'enseigne, ben voilà, on peut discerner la manière habituelle dont Dieu a d'agir. C'est intéressant de voir la manière de faire de Dieu. À quoi les disciples reconnaissent-ils Jésus ressuscité ? C'est pas au trait de son visage. À chaque fois, il se demande qui c'est. C'est à sa manière de faire, à sa manière d'agir. Ça leur rappelle, d'une manière ou d'une autre, ça les reconnecte à autre chose. Parce que quelque part, alors vous, les disciples d'Emmaüs, c'est à la fraction du pain parce qu'ils l'ont déjà vu. À la pêche miraculeuse, c'est parce qu'il y a déjà une pêche miraculeuse. Madeleine, c'est au nom qu'elle a déjà entendu prononcer comme ça. Donc, mais quelque part, on peut dire que, à force de faire notre Magnificat chaque jour, on voit aussi la manière de Dieu d'agir. Et ces verbes à la horis, ça veut dire que c'est pas, Dieu agit pas simplement d'une manière ponctuelle, mais il agit, il a une manière de faire, et on reconnaît sa manière de faire. Et ça nous aide à discerner dans notre vie le passage de Dieu, quand on s'habitue à reconnaître sa manière de faire. Parce que finalement, voilà, Dieu est fidèle à ses promesses, il est fidèle à lui-même, et du coup, c'est très précieux d'arriver à repérer sa manière de faire. Là, ça rejoint ce que j'ai dit un peu avant, mais la louange, elle permet de voir plus loin que le mal et la mort. Elle chante déjà la victoire de la résurrection. Pourtant, au moment où Marie chante son Magnificat, c'était pas forcément les circonstances encore idéales, hein, parce que bon, c'était sous l'occupation romaine. La situation n'était pas forcément très très simple, hein, et puis d'autant plus qu'après on verra que l'accouchement de Marie sera pas dans les circonstances forcément idéales. Il faudra partir s'exiler en Égypte, etc. Mais c'est pas pour autant que Marie n'attend pas les circonstances idéales pour chanter son Magnificat. Elle chante son Magnificat dans un moment qui est ce qu'il est, comme nous aussi, hein. Si on attend de chanter le Magnificat que tout aille bien, on risque d'attendre longtemps. Mais le Magnificat, c'est comme une profession de foi quelque part. Je crois que Dieu va renverser, parce que je le vois dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est ce qu'il fait, et donc je le chante. Et cette parole de Saint Pierre, sans avoir vu le Seigneur, vous l'aimez sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Voilà, cette louange, elle nous fait anticiper en quelque sorte la victoire de Jésus dans notre vie. La louange, elle nous aide encore à traverser la souffrance. Marie n'a pas été épargnée par la souffrance, hein, vous savez aussi bien que moi. Déjà, toutes les circonstances autour de la naissance de Jésus, c'est quand même pas très simple. Après, il y a cette fuite en Égypte. Après, elle perd Jésus pendant 3 jours. Vous imaginez l'angoisse qu'elle a pu traverser à ce moment-là. Donc, a fortiori, même pendant la vie publique de Jésus, c'était pas forcément très simple pour elle. Mais voilà, un père de l'Église qui dit « Prendre des chants de louange, ça nous aide à poursuivre le chemin sans nous arrêter déprimés. » Et de fait, on voit que les apôtres ont vraiment, c'est après la Pentecôte justement, donc, mais qu'ils sont déjà habités par cette louange. Et voilà ce qu'il dit. Alors c'est facile à dire, à vivre peut-être... Il faut sans doute beaucoup de foi. Et... Tenez pour une joie suprême, mes frères, mes sœurs, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouver votre foi produit la constance. Alors, les épreuves, ce n'est pas des cadeaux, mais Saint Jacques, quand il dit ça, c'est quand même extrêmement fort, mais les autres le disent de la même manière. Saint Pierre, c'est assez unanime de la part des apôtres. De voir une certaine joie à travers, dans la souffrance, non pas que la souffrance soit, on court pas derrière, bien entendu, mais parce qu'on est une lumière, parce qu'on est dans une forme de louange, alors on peut voir au-delà de la souffrance. Je vous cite Saint Paul. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Donc ça lui permet de traverser aussi cette souffrance. Ou alors Saint Pierre, Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous aussi, vous soyez dans la joie et l'allégresse. Et ça, c'était déjà aussi dans les béatitudes, etc. Voilà. Cette louange aussi qui va à l'inverse de la critique et de la plainte. Saint Jacques, qui est toujours assez concret. La langue nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes qui sont créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Et du coup, la louange, ça va de pair justement avec cette... c'est pas forcément spontané, hein, donc ça se travaille aussi pour que nos paroles de bénédiction à l'égard de Dieu, ça soit aussi des paroles de bénédiction à l'égard de ceux qui nous entourent, de ceux qu'on rencontre. Mais c'est aussi ces paroles, cette attitude de louange, encore une fois, hein, qui nous dispose à accueillir l'Esprit Saint. Si on est tout le temps dans les médisances et tout ça, ben, l'Esprit Saint aura du mal à venir nous rejoindre. Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, était extrêmement attentif. Il faisait la guerre à tous ceux qui étaient dans la médisance. Il dit, non, si on veut accueillir l'Esprit Saint, on ne peut pas, ce n'est pas conciliable. Saint François d'Assise aussi, alors là, il avait chargé un frère, Florentin, qui était costaud, de corriger les frères qui seraient dans la médisance. Et on dit, c'est des puces sanguinaires, allez. Allez, alors, il les avait menacés de... Il n'allait pas par quatre chemins. Un jour, il y a un frère qui dit des médisances. Il lui a fait avaler du crottin de cheval. Je crois que ça l'a calmé. Hein. Voilà, si vous voulez accueillir l'Esprit Saint, ben voilà, il ne faut pas que du même orifice, comme dit Saint Jacques, de la même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Non, il faut vraiment qu'il n'y ait que la bénédiction. Paul VI en parle aussi dans sa lettre sur la joie. Que nos fils inquiets de certains groupes rejettent donc les excès de la critique systématique et annihilante. Sans se départir d'une vue réaliste, les communautés chrétiennes deviennent des lieux d'optimisme où tous les membres s'entraînent résolument à discerner la face positive des personnes et des événements. Donc la louange qui fait pas bon ménage avec les médisances. Et l'éducation d'un tel regard n'est pas seulement une affaire de psychologie, elle est également un fruit de l'Esprit Saint. Et dernier mot sur la louange, c'est de... Alors ça, j'avais expérimenté avec des couples aussi, parce que quelquefois, on pense des choses qui sont bien, heureusement, et j'espère souvent, on pense du bien des autres. Mais la louange, c'est un pas de plus, c'est pas seulement le penser, mais le dire. Donc, c'est important d'exprimer sa louange, pas forcément celle de la garder au fond de notre cœur, mais d'exprimer. Et on voit que souvent, faites l'essai avec des gens de votre entourage, je pense que vous pensez du bien d'eux, j'en doute pas, mais entre le penser et le dire, il y a souvent une marche assez grande. Et c'est important de ne pas en rester, que ça ne reste pas dans votre tête, mais de l'exprimer. Et a fortiori vis-à-vis du bon Dieu. Hein, c'est ce que sont en train de faire les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils proclament les louanges de celui qui les appelait des ténèbres à son admirable lumière. Alors oui, on dit, ceux qui y assistent, nous les entendons chacun dans notre langue publier les merveilles de Dieu. Alors ça, c'est un aspect de la louange qui est... Donc, j'ai vu trois dispositions jusqu'ici. Cette humilité pour accueillir l'Esprit Saint, qui est dont Marie est le modèle, cette foi dont Marie est le modèle, cette louange aussi qui s'illustre dans son Magnificat. Et quatrième point, c'est la charité. La charité, alors on la voit en œuvre hein, avec Marie, puisqu'elle va voir sa cousine Élisabeth. La charité, elle doit s'exprimer par des actes concrets. Alors, c'est important qu'elle soit dans notre cœur, mais elle doit s'exprimer dans des actes concrets. Et alors, Marie, elle n'a pas eu besoin de se faire prier par l'ange. L'ange lui dit, ah, ta cousine, elle en est à son sixième mois. Et puis, elle n'est pas toute jeune. Hein, un fils dans sa vieillesse. Et alors, Marie se mit en route rapidement. On ne sait pas comment se passait le début de la grossesse pour Marie, si c'était facile. Quelquefois, le début de la grossesse, ce n'est pas forcément la période la plus facile. Mais où elle aurait pu se dire, ah oui, mais c'est le Fils de Dieu, il ne faut vraiment pas que je prenne de risques, je reste chez moi. Voilà. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer dans sa tête, mais en tout cas, elle ne goûte pas égoïstement cette grande... Donc, elle y va. Et cette charité, ça nous ouvre le cœur pour accueillir l'Esprit Saint. C'est, d'une autre manière, c'est Dietrich Bonhoeffer dit que notre cœur n'a qu'une porte. Hein? Alors lui, il dit pour aimer Dieu et le prochain, mais aussi on peut dire, si on veut que l'Esprit Saint rentre, il faut qu'il ouvrir la porte en ouvrant notre cœur aux autres. Hein? Donc il y a une manière de... Si la porte serait fermée dans notre charité, ben elle sera fermée aussi à l'Esprit Saint, quelque part. Il y a ce beau verset de Saint Paul aux Romains. « Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit. » Alors, il y a plusieurs traductions. Hein, c'est chapitre 12, verset 11 des Romains. Il y a d'autres... Alors, on voit que Marie, elle calcule pas, là, pour partir chez sa cousine. On parle de, il y a cette rapidité, cet enthousiasme, on pourrait dire. Voilà ce que dit Saint François de Sales. C'est le propre de l'Esprit Saint, lorsqu'il touche un cœur, d'en chasser toute tiédeur. Il aime la promptitude. Il est ennemi des délais, des retards dans l'exécution de la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, une des lectures qui est proposée pour la visitation, il y a soit un passage de Sophonie, soit justement l'Épître aux Romains au chapitre 12. Et alors, donc il est question de l'Esprit Saint, justement, dans cette... Et ça va dans le sens d'un surcroît. Ce n'est pas quelque chose de ric-rac avec l'Esprit Saint, c'est vraiment une générosité, une abondance. Je vous cite quelques versets. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. On voit tous ces mots disent un peu cette une ferveur derrière. Et c'est ce qui donne la joie aussi. Et la charité, donc il y a ce service et il y a l'aspect de communion fraternelle, ça qu'on voit très bien dans le Cénacle. Hein, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Et ça c'est très vrai aussi, si on veut accueillir l'Esprit Saint, on est obligé de travailler sur nos relations fraternelles. Parce que sinon ça fait obstacle. Heureusement, il n'attend pas qu'on soit parfait pour venir, l'Esprit Saint, heureusement, sinon... Il y a de quoi se décourager. Mais bon, ça attire la... Déjà, c'est un effet de la grâce, cette communion fraternelle, mais ça attire, hein, c'est comme une spirale. Sainte Thérèse en parle bien à propos de la gratitude. Voilà ce qu'elle disait à sa sœur. Ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance. Car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et s'empresse de nous en faire 10 autres. Et si nous le remercions encore avec la même effusion, quelle multiplication incalculable de grâce. J'en ai fait l'expérience, essayez, vous verrez. Ma gratitude est sans borne pour tout ce qu'il donne, et je le lui prouve de mille manières. Mais c'est ça aussi, la charité, voyez, là, il y a une sorte de spirale qui se met en route, une spirale vertueuse qui attire vraiment la bénédiction. Donc, quatre dispositions pour accueillir l'Esprit Saint. Et alors, en guise de conclusion, trois choses. Accueillir Marie, qui nous aide à accueillir l'Esprit Saint, accueillir aussi la joie et ne pas craindre de rayonner cette joie. Je ne sais pas si Frère Jean-Gabriel vous a fait référence à l'accueil de l'arche quand David a fait monter l'arche jusqu'à Jérusalem. Peut-être pas. Alors, je vous en dis un petit mot parce que, en fait, Saint Luc, quand il écrit son évangile, nous, ça ne nous saute pas forcément aux yeux parce qu'on n'est pas très habitués, mais lui avait clairement à l'esprit ce moment où David fait monter l'arche à Jérusalem. Donc, David a conquis Jérusalem, donc il a installé un palais et maintenant il veut faire monter l'arche. Donc, il a bonne volonté, c'est très bien. Et du coup, il commence avec toute une festivité. Donc, il y a un chariot pour transporter l'arche. Vous vous rappelez peut-être l'épisode. Et puis, à un moment, ça nous paraît un peu dur quelque part, mais il y a des ornières, le chariot il penche. Donc, il y en a un qui touche l'arche pour l'empêcher de tomber. On dit, ben, c'est quand même plutôt bien. Sauf que il n'était pas autorisé à toucher l'arche, donc foudroyé sur place. Alors, oh là ! Alors, ça calme un peu David. David dit, je vais la remiser chez Obed-Edom, là, dans ce coin-là, et puis on va voir. Parce que... Et, alors, il y a plusieurs mots qui évoquent ça. Déjà, c'est la même région que celle de la Visitation. Après, au bout de 3 mois, hein, comme Marie qui reste 3 mois chez Élisabeth, on lui dit, ben voilà, Obed-Edom, tout lui réussit. Depuis que l'arche est chez lui, tout lui réussit. Alors, David dit, oh, ben, je ne vais pas la laisser chez lui, je vais la reprendre chez moi. Alors là, il prend garde de ne pas la toucher. Okay. Et alors, il la fait monter et il danse devant l'arche, un peu comme Jean-Baptiste danse dans le... c'est le mot qui est employé dans le sein d'Élisabeth pour la venue de l'arche. Et alors, pourquoi Saint Luc fait ce rapprochement entre l'arche et Marie? C'est simplement parce que l'arche, c'était ce qui contenait la présence de Dieu. Hein. Il y avait l'étape de la loi. Et du coup, l'arche, pour Saint Luc, c'est Marie est la nouvelle arche qui contient le Seigneur lui-même. Hein, elle le porte en elle-même et voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait c'est vraiment le lieu de la présence de Dieu et le fait d'attirer, il nous suggère le fait d'accueillir Marie, c'est aussi source de bénédiction, hein, comme Obed-Edom dans l'Ancien Testament, si vous voulez les références. Obed-Edom, c'est deuxième livre de Samuel au début du chapitre 6. Du coup, c'est source de bénédiction et je pense que pour préparer cette Pentecôte, alors donc bien sûr l'humilité, la foi, la charité, puis la louange, mais d'accueillir Marie un peu comme les apôtres qui ont attendu l'Esprit Saint en compagnie de Marie, qui comme elle attire l'Esprit Saint en quelque sorte. Hein, donc de préparer ça avec Marie. En guise de conclusion aussi, c'est cette joie, je crois qu'il nous marque tous dans ce récit de la Visitation, c'est l'atmosphère de joie. On a l'impression que c'est le bonheur, le printemps, voilà, tout le monde est heureux, tout ça. Enfin, c'est pas comme au pied de la croix, hein, là, au moment de la Visitation. Et je crois qu'on est, appelé aussi à cultiver cette joie proprement chrétienne, cette joie aussi qui va de pair avec justement cette humilité, cette foi, la louange, cette charité. Voilà, et ça, c'est vraiment un fruit aussi qui vient avec l'Esprit Saint, cette joie. Il y a un lien étroit entre la joie et l'Esprit Saint, et la joie, c'est un fruit de l'Esprit. Hein. Et ce n'est pas un enthousiasme passager. Ça, on le voit beaucoup dans l'évangile de Saint Luc. Avec l'Esprit Saint, il y a vraiment cette joie qui est répandue. Tout à l'heure, j'évoquais le passage où Jésus qui est tressaille de joie sous l'effet de l'Esprit Saint. Oui, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et aux savants, de l'avoir révélé aux tout petits. Donc, c'est toute cette joie qui est très proche de l'accueil de l'Esprit et qui est un fruit de l'Esprit Saint. Et cette joie aussi, et je terminerai par là, qui est aussi un fruit de l'Esprit Saint, mais qui est aussi évangélisatrice. C'est clair que ce qui est le plus vendeur, entre guillemets, si vous voulez faire de l'évangélisation, c'est que vous ayez le sourire. Si vous arrivez avec une tête d'enterrement pour annoncer que Jésus est ressuscité, ça ne sera peut-être pas très convaincant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des moments difficiles, ou etc. Mais je pense que cette joie aussi, l'Esprit Saint, se manifeste aussi à travers cette joie. Voilà, donc, c'était ces quelques mots que je voulais vous dire, là, en ce mois de mai. J'avais promis que je parlerais de Marie cette année, donc il fallait quand même que je me rachète un petit peu. Et puis, dans cette perspective de la Pentecôte, je trouve que c'est peut-être pas un hasard que en tout cas, ça tombe bien que la visitation soit toujours aux alentours de la Pentecôte, parce que je pense que elle nous dit quelque chose de ces attitudes à avoir pour vraiment accueillir l'Esprit Saint, et qu'on retrouve aussi, d'une certaine manière, aussi dans le récit du Cénacle.